Bonjour.
Anne, tout petit problème technique avec l'enregistrement, donc on va faire un peu différemment aujourd'hui. Ce matin, j'aimerais aborder un sujet, bon, effleuré, parce que je n'ai pas la prétention de pouvoir traiter l'exhaustivité d'un sujet qui est aussi large et qui concerne le combat spirituel. J'aime bien les images. Alors les images, elles ont toutes leurs limites, mais je suis souvent, je m'intéresse de loin, je ne suis pas un fan, mais je m'intéresse un petit peu au sport et au sport d'équipe. Et il y a toujours quelque chose qui m'a un petit peu interpellé. Vous savez qu'il y a des temps dans l'année qu'on appelle le mercato, où les joueurs ils peuvent passer d'une équipe à l'autre. Hein. Donc ils ont un contrat, puis ils jouent dans une équipe, et puis ils peuvent se retrouver l'année d'après à jouer dans une autre équipe, contre l'équipe dans laquelle ils étaient. Je sais qu'il y a quelques footeux dans la salle. Il y a quelques temps, on a entendu parler de problèmes entre Marseille et Lyon, parce qu'il y a un joueur qui était à Marseille, qui est parti à Lyon, ainsi de suite, et ça tiraille. Mais j'ai constaté une chose, c'est que quand le joueur il a quitté son équipe, bah, il joue à fond dans la nouvelle équipe dans laquelle il est. Et je m'arrêterai là sur cette image, parce que ce n'est pas le propos, mais je pense qu'elle illustre dans les grandes lignes ce qui peut se passer quand on passe d'une ancienne vie de péché, de misère, à une nouvelle vie avec Christ. On ne joue plus dans le même camp, on n'est plus dans le même royaume. Et à la conversion, il y a une séparation qui se passe d'avec notre ancienne vie, il y a un changement de royaume, on passe du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Éphésiens 2, verset 1-5, Paul décrit cette situation. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois. Nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Mais, Dieu qui est riche en bonté, nous a rendus vivants avec Christ. Et puis quand on reste dans ce chapitre 2, au verset 11, il nous est dit « vous autrefois », puis il y a toute une liste de ce qui se passait autrefois, et au verset 13, « mais maintenant en Jésus-Christ ». Éphésiens 5, verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Il y a un avant, il y a un après. Il y a au moment de la conversion, au moment qui fait suite à la repentance, il y a un changement qui nous amène à passer du royaume des ténèbres au royaume de Christ, au royaume de la lumière. Paul écrivait aux Corinthiens dans la deuxième épître, au chapitre 6, versets 17 et 18, il nous a dit cela, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous du Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Nous sommes donc appelés, au moment de notre conversion, de changement de vie, nous sommes appelés à sortir et à nous séparer du monde. Alors pas physiquement, parce que, et j'ai mis entre parenthèses, quoique, il y a bien des situations, je pense, où nous sommes appelés à ne pas nous mélanger aux gens qui ont une mauvaise vie, qui sont dépravés, qui vivent dans le péché, dans la boue du péché. Mais en tout cas, nous sommes appelés à sortir, à nous séparer du monde. Spirituellement, ça, c'est clair, net et précis. Jean écrivait dans sa première épître, au chapitre 2, verset 15, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, c'est-à-dire ne nous laissons pas conduire par l'esprit du monde. » Et puis, Paul, de nouveau dans les Éphésiens, chapitre 4, verset 7, « Vous ne devez plus marcher comme les païens. » Et au chapitre 4, toujours au verset 21, « C'est en lui, en Jésus, que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Et on ne peut pas être et faire dans notre nouvelle vie avec Christ comme nous étions et comme nous pratiquions lorsque nous étions sans lui. Ça n'est pas possible, parce qu'à un moment, on va se faire rattraper par malin, par notre ancienne vie. Et je pense que le combat spirituel commence à ce moment-là. Je change de territoire, je suis invité à me dépouiller de cette nature charnelle, de tout ce qui était ma vie passée. C'est vrai qu'à la conversion, le Seigneur nous débarrasse de tas de choses, mais il y a un cheminement. Il y a, on a eu l'occasion de le dire dans la semaine passée, où il y avait le jeûne, le perfectionnement qui est ce travail que Dieu veut faire dans nos vies, mais que nous aussi, nous devons accomplir. Et à partir du verset 25, toujours dans le chapitre 4 d'Éphésiens, à un moment, il y a « c'est pourquoi ». C'est pourquoi nous sommes appelés, nous sommes amenés à prendre un certain nombre de décisions, à faire un certain nombre de choses. Et là, j'ai regardé dans la fin du verset, du chapitre 4 et les chapitres 5 et 6, donc on va dire sur à peu près deux chapitres, l'apôtre Paul utilise 41 fois des verbes à l'impératif. 41 fois. Soit sous forme affirmative, soit sous forme négative. Renoncez, ne donnez pas accès aux malins, marchez, examinez, prenez garde, ne soyez pas, prenez, mettez, et la liste, vous pourrez la compléter 41 fois. Ça veut dire qu'on a une part importante à faire dans notre marche avec Christ, et même si une fois encore, le Seigneur nous accompagne et nous aide, et enlève, nous libère des liens du péché à la conversion. Mais dans notre marche avec lui, nous sommes amenés à prendre des décisions. J'aime à dire que le Seigneur ne fait pas de nous des marionnettes. Il ne fait pas, au moment où on se convertit, des personnes qui seraient attachées par des bouts de fil et nous emmèneraient où il veut, et il nous ferait faire ce qu'il veut. Non, il nous laisse notre libre choix. Et à partir de ce moment-là, on va effectivement commencer un combat spirituel, parce que dans la tentation, dans des choix à faire, dans des décisions, dans des choses que je pratiquais avant, que je ne sais, que je ne dois plus les pratiquer parce que c'est un péché, ça déplaît à Dieu, je suis amené à prendre des décisions. Et une des premières étapes du combat spirituel va être de nous dépouiller du vieil homme. Alors là aussi, moi, j'ai été surpris parce que on pourrait dire, ben, Seigneur, moi je ne peux pas, c'est toi qui vas t'en occuper. Moi je ne peux pas me dépouiller moi-même. Eh bien non. Paul dit aux Éphésiens, c'est en lui, en Jésus, que vous avez été instruits à vous dépouiller. Et nous sommes invités, nous-mêmes, par la grâce de Jésus, il nous donne la capacité de refuser le mal, de résister aux jours de la tentation. Encore faut-il que nous le voulions. Parce que, effectivement, si nous nous laissons entraîner par nos anciennes pratiques, par l'esprit du monde, bah, à ce moment-là, oui, on va dire « Ah, ben, j'arrive pas à résister ». Oui, mais ça commence par la volonté, et la volonté de le faire par la grâce de Dieu. Tout enfant de Dieu né de nouveau est appelé à être représentant du royaume de Dieu sur terre. Nous sommes des ambassadeurs du royaume. Alors, une ambassade, moi, je suis jamais allé dans une ambassade, mais je sais un petit peu comment ça se passe. C'est qu'une ambassade, par définition, elle n'est pas sur son propre pays. Il n'y a pas d'ambassade de France en France. Ça n'a pas d'intérêt. L'ambassade, elle a pour mission de représenter un pays dans un autre. Et une ambassade, elle a cette particularité, c'est qu'au sein de l'ambassade, la loi qui s'applique, ce n'est pas la loi du pays où elle est géographiquement, c'est la loi du pays qu'elle représente. Et en général, l'ambassade, elle est plutôt bien gardée. On n'y rentre pas n'importe comment. Il y a des règles, il y a une sécurité. Et on veille à ce que l'intégrité de cette représentation soit assurée. Et c'est notre mission d'enfant de Dieu, de chrétien sur terre, c'est d'être ambassadeur du royaume de Christ. Alors moi j'ai noté en terre ennemie parce que, effectivement, ça va pilonner. Ça va pilonner. Parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a le malin qui est dans le monde, parce que l'enjeu de la vie éternelle est tellement important que Satan va essayer de pénétrer dans l'ambassade, et le combat spirituel va aussi consister à garder cette ambassade, à garder ce royaume protégé. Vous savez, je ne sais pas si ça existe encore maintenant, parce qu'avec les accords de Schengen, la libre circulation, mais en tout cas, en temps de guerre entre deux fronts, il y avait ce qu'on appelait une zone de no man's land. C'est-à-dire qu'il y avait une zone qu'on délimitait entre deux lignes de front, où là, il n'y avait personne, et parfois c'est le cas entre deux pays. On définit entre deux frontières une zone où il n'y a rien. Avec Christ, c'est pas pareil, il n'y a pas de no man's land. On est dans un royaume ou on est dans l'autre. On ne peut pas être entre les deux. Soit nous sommes dans le royaume des ténèbres, dont le prince est Satan, soit nous sommes dans le royaume de lumière avec Christ comme Seigneur, mais on ne peut pas être ailleurs que dans un des deux royaumes. Et bien évidemment, ce sont deux royaumes qui s'opposent spirituellement. Je voudrais encourager, si plusieurs sont en chemin et découvrent Christ, moi je ne peux que vous empresser à venir à Jésus, à confesser votre péché, à changer de vie et à rentrer dans le royaume de lumière. Mais on ne peut pas être entre les deux, c'est dans l'un ou c'est dans l'autre. Alors il va y avoir un combat spirituel, Paul écrit aux Corinthiens dans la deuxième épître au chapitre 10 verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Amen. Et on va rentrer un peu plus, maintenant que ce décor est planté, on va rentrer un peu plus au cœur du sujet. Et je vous invite à prendre la lecture dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. On n'est pas invité à faire de la boxe ou du judo et à mettre KO nos adversaires, on sait que le combat il est spirituel. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je pourrais en parler. Amen. On a ici, je l'évoquais, Paul nous exhorte à nous revêtir nous-mêmes. Là encore, hein, c'est pas un conseil, c'est des verbes à l'impératif. Et on entend parfois, dans des prières, et certainement que moi aussi peut-être je les ai faites, « Seigneur, revêt-moi de la cuirasse, revêt-moi du casque. » Et le Seigneur nous répond, « Prends le casque, prends la cuirasse, et il nous renvoie nos responsabilités. » Parce que là encore, c'est la responsabilité de chacun de se revêtir ou pas. Et donc, Paul va nous exhorter à nous revêtir nous-mêmes de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, il utilise le parallèle avec de vraies armes pour illustrer son propos. Le récit que je vais essayer d'en faire maintenant, je n'ai pas la prétention qu'il soit exhaustif, et puis comme toute image, comme les paraboles dans les évangiles, l'image peut avoir des angles de vue et des interprétations. Donc le but, ce n'est pas de fonder une doctrine à partir d'images qui ont été données, c'est d'essayer d'en tirer des enseignements qui peuvent être bons pour notre foi. Alors au verset 14, bien évidemment, la première chose, c'est que l'apôtre Paul nous encourage au verset 10 à nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il est clair que si nous y allons par nos propres forces, et je crois que le Saint-Esprit l'a réaffirmé ce matin, par nos propres forces, nous allons perdre beaucoup de temps, nous allons perdre beaucoup d'énergie. La première chose, c'est de reconnaître que sans Christ, nous sommes bien faibles, nous sommes bien incapables, mais que c'est lui qui va nous donner la force d'aller combattre. Alors au verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Les reins, dans la parole de Dieu, représentent la force physique, la vigueur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu marcher quelqu'un qui a mal aux reins, mais en général, il n'est pas droit comme ça, il est plutôt courbé. Et c'est vrai que les reins, c'est un endroit du corps qui nous porte, et que quand les reins sont atteints, bien souvent, on manque de force, on manque de vigueur. David écrira dans le psaume 18, après que l'Éternel les délivré de ses ennemis, « Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel ? C'est Dieu qui me ceint de force. » Et c'est vraiment cette ceinture à nos reins qui doit nous rendre plus forts. Alors pourquoi faut-il ceindre nos reins avec la ceinture de vérité ? Alors le thème de la vérité, je ne vais pas le creuser ce matin, parce que là il y en aurait, je pense, pour des mois ou des années, peut-être jusqu'au retour du Seigneur. J'ai essayé de prendre quelques points qui me semblaient intéressants pour l'étude de ce matin. Nous ne pourrons pas être forts dans notre vie chrétienne en nous appuyant sur nos propres convictions, sur notre propre vérité. Alors peut-être vous êtes en train de vous dire, c'est facile à dire, mais quand on voit le nombre de personnes à partir d'un même texte de la Bible qui arrive à... Je pense que quand on a soif de vérité, quand on se place devant la parole en disant « Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes pensées, moi je veux... trouver ce que tu veux me dire dans ce passage. Je ne veux pas interpréter, je ne veux pas m'attribuer ce passage pour le faire entrer dans la case de mon entendement parce que j'ai toujours pensé que c'était comme ça et ça ne changera pas. » Quand on se place comme ça devant la parole de Dieu, alors il opère une chose magnifique, c'est qu'il nous révèle la parole. Il nous est dit qu'il a caché ces choses aux sages, aux intelligents. Il le révèle aux âmes. C'est-à-dire que la parole est la vérité. Si nous venons à lui avec soif de vérité, il va nous révéler la vérité. Jean chapitre 8, verset 32, il nous est dit, c'est Jésus qui s'adressait aux Juifs qui avaient cru en lui, et il leur dira, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. » Si vous demeurez dans ma parole. Vous noterez qu'il n'est pas écrit si vous connaissez ma parole. La connaître, c'est une chose. Il nous engage à y demeurer. Et la vérité nous affranchira. La vérité, elle nous rend libres. Nos souvenirs que nous ne sommes plus esclaves de notre ancienne vie de péché, nous avons été affranchis, rendus à la liberté, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu avec un esprit bien disposé et nous laisser bousculer par le Saint-Esprit pour que la vérité de Dieu triomphe. Ceindre nos reins, si je mets une ceinture à mon pantalon, j'en ai mis une, mais si la ceinture n'est pas serrée, elle ne sert à rien. C'est peut-être évident, mais ceindre ses reins, le fait de ceindre, ça veut dire qu'on serre. On enveloppe et on serre. Moi, ça m'a parlé, parce que si nous ne cherchons pas à nous envelopper, à serrer la vérité contre nous, alors ne soyons pas surpris de manquer de force dans notre vie chrétienne. On ne peut pas marcher sur des a priori, sur tout bruit de vent, de doctrine, aller picorer. Non, il faut nous ceindre avec la ceinture de vérité, nous envelopper, serrer la vérité, et à ce moment-là, le Seigneur nous conduira de jour en jour et nous donnera la force et la vigueur pour la marche. Ensuite, il nous est parlé de revêtir la cuirasse de la justice. La justice de Dieu n'a aucune comparaison, aucune commune mesure avec la justice des hommes. Notre vie de péché nous condamnait à la mort éternelle, mais Dieu a exercé sa justice envers nous. Et nous sommes, quand nous venons à lui, quand nous abandonnons notre péché, quand nous confessons notre péché, nous sommes déclarés justes par la justification en Jésus-Christ. Alors ne nous laissons pas accuser par le malin sur nos péchés passés, sur notre ancienne vie, sur des tas de choses que nous avons pu faire et qui pourraient revenir dans nos pensées. La justice de Dieu nous rend justes. Le Père nous voit comme si nous n'avions jamais péché. Alors bien évidemment, ici, il n'est pas question d'une justification qui nous permettrait de vivre notre vie présente en disant c'est super, comme je suis juste et comme Dieu me voit juste, je fais tout ce que je veux. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une repentance, il s'agit d'une vie nouvelle. Paul écrit aux Corinthiens dans la première épître au chapitre 6 verset 11, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Pour être justifié, il faut d'abord avoir été lavé. Donc si je me vautre dans la boue du péché et que je dis, de toute façon, je suis justifié par Christ, la justification n'aura aucun effet dans nos vies. Il faut que nous soyons lavés, il faut que nous soyons sanctifiés pour être vus comme justes aux yeux de Dieu. Et si nous sommes justes aux yeux de Dieu, alors nous sommes aussi, dans le royaume que nous représentons, nous sommes aussi appelés à exercer la justice de Dieu. Dans le texte original, en grec, le juste, c'est celui qui observe la loi divine. C'est celui dont les pensées, les paroles, les actions sont conformes à la volonté de Dieu. Et donc, il nous est dit que nous devons nous revêtir de la cuirasse de la justice. La cuirasse, elle va protéger la majorité de nos organes vitaux. La cuirasse, quand on la revêt, on ne voit plus maintenant de militaires avec des cuirasses, mais l'objectif de la cuirasse, c'est de protéger les organes vitaux, le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, les reins, elle protège ce qui est vital. Et si nous ne revêtons pas la cuirasse de la justice, nous nous mettons en danger de mort spirituelle. Si nos pensées, nos paroles, nos actions ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, alors notre vie en Christ est menacée. Et nous nous exposons au coup mortel que l'ennemi pourrait nous porter. Revêtons la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Romains chapitre 12, verset 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Le zèle est complètement à l'opposé de la paresse. Le zèle, c'est de l'entrain, c'est du dynamisme, c'est l'envie de faire, c'est vraiment complètement opposé à la paresse. Quand est-ce qu'on met des chaussures ? On met des chaussures pour marcher, sinon on met des chaussons. Voilà, effectivement, les chaussures n'ont pas d'utilité si nous restons confortablement installés dans un fauteuil à la maison. Il n'y a pas d'intérêt de mettre des chaussures. Et l'apôtre Paul nous encourage, nous dit « mettez pour chaussures à vos pieds ». Ça veut dire qu'il faut qu'on se chausse. Donc on est appelé à être en mouvement. On n'est pas appelé à être statique, à être assis confortablement. On est appelé et à marcher. Et les chaussures évoquent le mouvement, la progression, la marche, l'engagement. Et nous ne devons pas vivre notre vie chrétienne sur nos expériences passées, mais aller chaque jour de l'avant avec le Seigneur. On peut être tenté de dire, j'ai rencontré le Seigneur en telle année, tel jour, telle date, je me suis fait baptiser, j'ai vécu ça, merci Seigneur, et c'est bien de nous en souvenir et de glorifier le Seigneur, de louer pour tout ce qu'il a pu faire dans notre vie. Mais nous ne pouvons pas marcher dans notre vie sur les expériences du passé. Le Seigneur nous invite à marcher et à vivre ça tous les jours. À vivre cela tous les jours. Le zèle de l'évangile de paix me fait penser au feu du premier amour. Mettez pour chaussure à vos ailes, pour chaussure à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans votre vie quand le Seigneur est rentré et a tout changé. Mais en général, ça bouleverse beaucoup de choses et on n'a qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Comme on dit, tout feu, tout flamme, quoi. Les choses ont été radicalement changées, on a fait une super découverte, on n'est plus pareil, on a envie de témoigner, on a envie de servir dans l'église, on ne sait pas quoi faire pour rendre service aux frères et sœurs. Il y a un feu dévorant et le zèle que donne l'évangile, moi, me fait penser au feu de ce premier. Ça nous a été rappelé il y a peu de temps, et Robert l'a lu encore ce matin, Jésus qui, lisant le livre du prophète Ésaïe, dira ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer Et là, on a condensé en quelques versets, on a résumé l'évangile. L'évangile de paix n'est autre chose que d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. N'est-ce pas là la définition parfaite de l'évangile de paix? Et nous sommes invités à mettre à nos pieds, pour chaussures, le zèle que donne cet évangile. Notre engagement, notre vie chrétienne doit être motivée par cet évangile. Moi, je ne veux pas un autre évangile que celui-là. Alors, ne nous trompons pas de chaussures. Notre zèle ne doit pas être basé sur d'autres motivations que l'annonce de cet évangile. Nos chaussures seraient-elles usées? Notre marche est-elle ralentie, voire stoppée? On a peut-être attrapé des ampoules parce que, tout compte fait, les chaussures qu'on avait mises n'étaient pas forcément du zèle de l'évangile. J'ai pensé à ce passage des Deutéronomes qui nous parle du peuple d'Israël. Moi, ça m'a toujours impressionné, ce miracle merveilleux. Ils ont tourné 40 ans dans le désert. Et il nous est dit au chapitre 29 de Deutéronome, verset 5, Dieu dit, « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. » Et le Seigneur nous invite à revêtir les chaussures du zèle de l'Évangile, et si nous mettons ces chaussures à nos pieds, je peux vous assurer qu'elles ne vont pas s'user. Elles ne vont pas s'user parce que l'annonce de l'Évangile permet de voir les grandes choses se passer, permet de voir l'œuvre de Dieu dans les vies, et c'est un zèle qui doit animer nos vies. Mettons pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'Évangile. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Certains voient parfois dans les petits bobos de la vie, les incidents de la vie courante, les traits enflammés du malin. Je pense qu'il faut être sage. C'est vrai qu'il y a un combat spirituel. C'est pas pour autant qu'il faut voir dans tout ce qui peut nous arriver au quotidien l'œuvre systématique du malin. On pourra faire une liste très longue, j'ai pris quelques exemples. Je vais de temps en temps à Paris, je prends le train. Si je me lève en retard et que je loupe le train, le malin, il y est franchement pour rien. Si je ne mets pas d'essence dans ma voiture, je tombe en panne, le malin y est franchement pour rien. Mais on peut en sourire, mais soyons sages par rapport à ça. Parce qu'on peut parfois se tromper de combat. Et on part dans des choses en disant c'est un combat avec le malin, il veut me faire tomber, il veut... Non, commençons par être vigilants sur notre vie, avoir une vie bien réglée, avoir les choses bien en ordre. Et il y a beaucoup de choses qui vont déjà se régler par elles-mêmes. On pourrait allonger la liste, je vais m'arrêter là. Le bouclier de la foi, c'est un rempart entre l'ennemi et moi. J'ai revêtu une cuirasse pour me protéger. L'ennemi est en face et le bouclier, il est entre les deux. Et la foi, elle va venir s'interposer entre ma vie et entre l'ennemi qui est en face. Par contre, le bouclier, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit bien positionné. J'ai jamais tenu un vrai bouclier, mais je sais une chose, c'est que si je prends le bouclier... et que je tiens comme ça, il n'a strictement aucune utilité. C'est un petit peu comme un boxeur, on lui dit souvent, ne baisse pas ta garde, parce que si à un moment il ne se protège pas, il baisse le bras, il risque de se prendre un bon coup de poing dans la figure, ben le bouclier c'est pareil, le bouclier si je veux qu'il soit utile, c'est bien de le prendre, mais il faut que je tienne en bonne position. Ma foi est dans quelle position? Je peux dire, oui, j'ai la foi, j'ai le bouclier de la foi. Elle est dans quelle position? Elle est en quel mode, ta foi? Ma foi, elle est en quel mode? Est-ce qu'elle est en mode théorique? Je la tiens comme ça, je traîne ma foi. Ou est-ce qu'elle est en mode pratique? Comme un bouclier, comme un rempart que je tiens devant moi pour éteindre les traits enflammés du malin? Dans Hébreux 11, il nous est fait mention des témoins de la foi avec toute une liste d'hommes de Dieu, de patriarches, et il nous est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors la foi, le bouclier de la foi doit nous conduire à un abandon et une confiance totale en Dieu. Et nous rappelle aussi une chose, c'est que Christ a remporté le combat pour nous. Christ a remporté le combat pour nous. Dans Colossiens au chapitre 2, Paul écrit ceci au verset 15, il est question de Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et puis dans Éphésiens au chapitre 1, verset 20 à 23, il nous est dit que Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, Dieu a tout mis sous les pieds de Christ, et il a donné Christ pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et tous. Dieu a mis sous les pieds de Christ toute chose, et il nous a donné Christ comme chef. Nous avons un chef qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité. Alors ce bouclier de la foi doit aussi nous rappeler que le combat, et on le verra un peu plus loin en conclusion, le combat a été remporté par Christ. Et nous devons nous saisir de ça aussi comme bouclier. En disant, l'œuvre de Jésus à la croix, elle est venue pour triompher du mal, elle est venue pour triompher du péché, elle est venue pour libérer, guérir de la maladie. Prenons le bouclier de la foi. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque, on a vu que la cuirasse protégeait une majorité des organes vitaux. Le casque va protéger également un organe vital qui est le cerveau. Le cerveau, c'est le siège de nos décisions. C'est lui qui va commander le reste du corps. Si le cerveau est atteint et ne donne pas d'ordre, le corps devient inerte. Le corps devient inerte. Alors il est question du casque du salut. Le salut, je l'ai déjà dit, le salut, il est acquis en Jésus-Christ par son sacrifice à la croix. Et nous avons à le saisir par grâce, en confessant notre misère, notre péché, en nous repentant. Et le salut, il est acquis. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on se revête du casque du salut? Et je pense qu'il peut y avoir une autre signification du salut dans ce contexte. Dans un combat ou une bataille, la victoire et le salut est directement lié aux bonnes décisions. Quand il y a deux armées qui s'affrontent, le salut, il n'y a pas de gagnant dans une bataille. Soit on signe un armistice, on essaie de trouver un compromis, mais personne n'en sort gagnant, et ce n'est pas forcément la meilleure chose. Mais dans une vraie bataille, il n'y a qu'un gagnant. Et le salut de l'armée qui va gagner, il est lié aux bonnes décisions, prises au bon moment. Et moi, ça m'interpelle sur parfois des décisions qu'on peut prendre de manière très hâtive, de manière complètement, personnelle, sans consulter le Seigneur, sans consulter des frères, sans parler, et on se lance dans des décisions, des tas de décisions à 10 000 à l'heure. Et ici, les questions du casque du chalut, de protéger cet organe vital qui commande notre corps, qui est le siège de nos décisions. Un bon chef de guerre, c'est quelqu'un qui va user de sagesse, qui ne va pas forcément foncer. Dans le combat, on peut être sur la défensive ou on peut être en phase d'attaque. Et un bon chef de guerre, il ne va pas forcément toujours foncer. Un bon chef de guerre, c'est quelqu'un qui va user de sagesse, qui va user de tactique, pour ne pas se laisser vaincre par l'ennemi. Il va observer, il va prendre le temps, il va consulter. Et la parole de Dieu est comme un casque qui doit nous protéger des mauvaises décisions qui pourraient nous conduire à la défaite. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, on va le voir dans un instant, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un casque qui nous protège. Dans le psaume 119, verset 105, il nous est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et quand notre marche est éclairée par Dieu, nos décisions prises selon le plan de Dieu pour notre vie, ça ne peut être qu'en nous nourrissant de la parole de Dieu et en recherchant sa volonté que nous prendrons à ce moment-là les bonnes décisions dans nos vies. Une lampe à nos pieds, là encore, la lampe à nos pieds, c'est comme les chaussures qui servent à avancer. Si je mets une lampe à mes pieds pour rester sur place, il n'y a pas tellement d'intérêt. La lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier, elle doit m'aider à avancer. Elle doit m'aider à voir le chemin. Je vois où il faut mettre les pieds sans forcément savoir où me mène le sentier. La lampe à mes pieds, elle va éclairer le sentier. Mais je ne sais pas forcément au bout ce qu'il y a. Et la marche avec le Seigneur, selon sa parole, en lui faisant confiance, ben, il y a des moments où c'est comme ça. Le Seigneur, il dit, je vais te mettre une lampe à tes pieds, lis ma parole, recherche ma volonté, et tu vas voir tes pieds, pas à pas, où poser tes pieds sur le sentier. Et on ne sait pas ce qui est au bout du sentier. On ne sait pas forcément. Mais si nous lui faisons confiance, si nous laissons sa parole éclairer le sentier, alors à ce moment-là, il va nous conduire dans de belles choses et dans le plan parfait qu'il a pour nos vies. Seule la parole doit être notre guide. Elle est comme une boussole qui nous indique la direction à emprunter. Et puis le casque du salut est associé à l'épée d'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole est comparée ici à une épée. Alors là encore, on pourrait aller chercher beaucoup d'explications. Moi, j'ai choisi de me cantonner à quelques-unes. La fonction d'épée, elle est assez simple. Une épée, c'est fait pour trancher, c'est fait pour séparer. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, il nous est dit « Car la parole de Dieu, puisqu'il est question ici de l'épée de la parole de Dieu, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et la lecture de la Bible, sous l'action du Saint-Esprit, doit inévitablement nous amener à trancher des choses dans nos vies, à nous séparer de ce qui n'est pas conforme à une vie avec Dieu. Et ça me fait penser à la sanctification, qui est une séparation, et cette parole de Dieu, nous devons nous en laisser imprégner jour après jour dans notre lecture. Si nous lisons la Bible et qu'elle nous laisse totalement différents, crions à Dieu que son esprit vienne nous révéler la vérité, vienne nous révéler sa vie. Elle est comme un miroir dans lequel nous devons plonger nos regards, et ça doit être une épée qui vient séparer. C'est une épée qui va trancher. La parole de Dieu doit nous permettre de discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas. Elle vient séparer. Et les évangiles, les épîtres nous mettent en garde contre les faux docteurs qui apporteront toutes sortes de doctrines mensongères. Si nous ne sommes pas au clair sur la parole de Dieu, nous nous laisserons aveugler par la tromperie des hommes qui usent de séduction pour essayer de nous détourner de la vérité. Dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 12, nous avons eu l'occasion d'en parler, là encore, dans la semaine de jeûne que nous avons eue sur le thème du perfectionnement des saints. Et au verset 12, il nous est dit « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par le ruse dans les moyens de séduction. » La lecture assidue et la mise en pratique de la parole de Dieu est une arme redoutable face à l'ennemi. Elle a un roc solide sur lequel nous pouvons fonder notre vie. Et puis il nous est dit au verset 18, persévérez dans la prière, priez pour tous les saints. Les saints, ce sont les frères et sœurs. Je ne vais pas y passer des heures, je crois que le verset parle de lui-même. Priez pour tous les saints. Pas seulement pour ceux que j'aime, pas seulement pour mes amis, pas seulement pour ceux qui sont agréables, aussi, oui, pour ceux que j'ai du mal à supporter, pour ceux que j'ai peut-être plus facile à pointer du doigt en disant « Oh, quelle vie, il se dit chrétien !» C'est plus facile que de prier. Et nous sommes invités, et je ne dissocie pas ce verset des armes de l'esprit, parce que je pense que le combat spirituel, il est là aussi. Il est là aussi. C'est un enjeu énorme que de prier les uns pour les autres. Mais si nous prions les uns pour les autres, c'est une muraille qui s'élève pour nous protéger d'ennemis. si on est 100 dans une assemblée et que nous prions tous les uns pour les autres, ça veut dire qu'il y en a 99 qui vont prier pour moi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et si vous priez pour tous vos frères et sœurs, si les frères et sœurs prient pour vous, c'est une chaîne, c'est une chaîne qui se solidifie, c'est une muraille, c'est un rempart qui va se construire autour de l'Église et qui va être comme une muraille pour nous protéger des ennemis. Et puis Paul, dans la foulée, dit « Priez pour moi ». Eh bien oui, même Paul, il avait besoin qu'on prie pour lui. Il ne se sentait pas au-dessus des autres. Et je pense qu'on est appelé à prier les uns pour les autres, à prier pour nos frères et sœurs. On est appelé à prier pour les responsables. Là encore, hein, c'est plus facile de critiquer. Hein. Moi, si j'y étais, je ne serais pas comme ça. Oh, puis la louange. Oh, puis l'autre au club biblique. Oh, puis un tel. Et puis, c'est plus facile. C'est plus facile de dire, là, si j'y étais, je ferais différemment. On est tous les responsables sont infaillibles, je vais dire infaillibles. sont faillibles. On est fait de chair. Et l'apôtre, là aussi, nous exhorte, nous engage, nous ordonne de prier les uns pour les autres et de prier pour les responsables. Alors, je vais m'arrêter là sur ces quelques aspects qu'on peut voir dans le combat spirituel. Alors, peut-être, certains vont être déçus en disant, attends, il s'arrête, j'ai rien appris. Moi, je m'attendais à avoir une méthode sur le combat spirituel. Ben non, moi, j'ai pas de méthode, j'en ai pas trouvé. Attention, j'ai pas la prétention de tout savoir. Je ne voudrais surtout pas que ce soit mal interprété. Mais il y a une chose qui m'interpelle, c'est que dans ce passage qui est quand même très axé sur le combat spirituel, ben, à aucun moment il n'est parlé de scènes de combat. On nous parle de nous revêtir des armes de l'esprit, et à aucun moment dans le texte que nous avons lu, il n'est question de combattre. Le combat, il a été remporté par Jésus à la croix. Et là encore, je pense qu'il faut ne pas se tromper de combat. Ce n'est pas à nous de combattre pour ce qui a déjà été accompli à la croix. Si nous voulons être victorieux dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés par contre à nous équiper et à nous fortifier dans le Seigneur. C'est ce qui est écrit dans les premiers versets que nous avons lus au verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous sommes appelés à nous équiper comme des guerriers et à nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alors revêtons-nous de toutes les armes, pas une ou deux, parce que si j'en mets qu'une, si je mets juste le casque et puis je m'en vais à la guerre avec mon casque, ben je risque de pas tenir très longtemps. Si je prends que le bouclier, mais que j'ai une flèche ou une balle qui arrive dans la tête, et nous sommes invités, exhortés à revêtir toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme, pardon, après avoir tout surmonté. Amen. Nous allons prier, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Merci pour Jésus-Christ que tu nous as donné, Seigneur, que tu as envoyé, qui a quitté son ciel de gloire pour venir sur cette terre, accomplir ta volonté, Seigneur. Et oui, je veux le dire, le combat, il était gagné à la croix par Jésus-Christ. Mais tu m'appelles, Seigneur, ce matin à me revêtir des armes, pour tenir ferme, pour surmonter au jour de la tentation, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que nos vies, que chacune de nos vies, puissent être des vies d'hommes, de femmes qui sont revêtus, qui sont dépouillés du vieil homme et revêtus du nouvel homme. Tu nous invites, Seigneur, dans nos décisions à prendre les bons choix. Merci, Seigneur, de travailler nos cœurs par ta parole, de nous rendre forts de jour en jour pour notre marche. Tu es digne de louange, Seigneur, tu es digne de louange. Viens, Seigneur, continuer ton œuvre dans nos vies. Viens continuer, Seigneur, à fortifier nos vies. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.